Oui, bonjour Daniel, un message de Gilles de Paris. Un petit rapprochement qui devrait intéresser et qui en dit non sur l'état de notre pauvre planète. Je viens de lire que la vente des objets d'art de Pierre Berger et Yves Saint-Laurent a rapporté 373 millions d'euros et que l'État en a profité pour acheter des œuvres pour 13 millions d'euros. Eh ben, un petit rapprochement, donc, il se trouve que c'est à peu près le budget d'Emmaüs, c'est-à-dire 321 millions d'euros et que l'État lui en donne 14. Donc, je résume, un seul bonhomme va encaisser ce qui permet à une association de faire vivre directement 8000 personnes et d'en aider des dizaines de milliers d'autres. Et le pire, c'est qu'on va sûrement s'extasier sur l'extrême générosité de Pierre Berger quand il fera un chèque pour la recherche sur le sida. Bon, allez, je vous laisse. Je vais aller pleurer dans un coin. C'était Gilles de Paris. Merci.
Bonjour à tous. Bonjour Daniel. Attention, attention. Chomsky et compagnie débarquent ce soir, vendredi 27 février à 18h précise au cinéma de Mirepoix, dans notre Ariège bien-aimé. Vous savez où c'est? Venez nombreux. On pourrait poser les jalons d'un repère dans notre petite cité médiévale. Salut.
Bonjour. Alors, Dati vient de parler. Elle vient de répondre aux questions d'une avocate. Bien entendu, elle n'a pas répondu, elle a répondu à côté. Elle a dit qu'elle, elle était forcément du côté des victimes. Alors que l'avocate lui disait que quelquefois, ceux qu'on présumait coupables n'étaient que des victimes. C'est arrivé, il y a le procès d'Outreau il n'y a pas longtemps, il y a combien de gens qui sont en prison par un effet, comme une lettre de cachet du roi, sauf que maintenant, c'est le cachet de M. Sarkozy et d'un gouvernement. Jamais j'ai vu, pourtant je suis déjà vieux, je vais avoir 60 ans, jamais j'ai vu un gouvernement composé d'incapables comme le gouvernement d'aujourd'hui. Mais je suis quand même content. J'ai appris que M. Sarkozy avait plus de 36-37% d'opinion plutôt favorable. Ça y est, on gagne du terrain. Tous ces sots, tous ces mauvais, ils vont nous faire souffrir encore un moment, mais on ne les reverra plus. Les Besson, les compagnies, tous ces gens qu'on trahit, on ne les verra plus. Quand on changera de camp, ils seront chassés. Plus personne n'en voudra. Alors, moi, je suis quand même content. À toute chose, malheur est bon. Mais je ne suis pas pour la politique du pire. Rappelez-vous de Louis XVI, comme ça a fini, quand il a voulu que pratiquer la politique du pire. Je ne suis pas pour la politique du pire. Alors, peuple de gauche, et d'ailleurs, modéré et humaniste, courage, on va pas gagner tout de suite, mais on va gagner, on va les chasser.
Alors à tous les AMG du Toircet dans les Deux-Sèvres, je rappelle que le Café des Arts, 53 rue Saint-Médard à Thouars, est devenu un café repère depuis le 2 février dernier. Et pour cette occasion, eh bien Thomas, le maître des lieux, nous a offert même des crêpes. Bon, tout ça pour dire qu'on est très bien accueillis et il serait bien dommage de louper la prochaine réunion, lundi 2 mars, à partir de 18h. Au revoir.
Oui, salut Daniel, j'espère que tu as bien bronzé en Guadeloupe, c'est Guy de Martinique. Juste pour te dire que, est-ce que tu pourras organiser une collecte en métropole afin que nous puissions payer nos salaires fin février et que nous aurons licencié tellement de personnes à la mi-mars que nous aurons largement de quoi donner à peu près entre 400 et 500 euros aux salariés restants. Allez, j'espère que tu as passé de bonnes vacances à Guadeloupe, mon petit Mermet. Salut.
Allô, oui, Daniel Mermeil, bonjour, je me prénomme Jules Likeng, je suis d'origine africaine et je vous remercie de tout le travail que vous faites pour le petit peuple guadeloupéen. Vous donnez la parole à tous ces gens qui n'ont besoin de rien d'autre que de la reconnaissance par l'État, de l'égalité. À tous ces gens qui ont versé leur sang, qui ont donné de leur chair pour bâtir notre pays, la France, les Guadeloupéens, les Martiniquais n'ont besoin de rien d'autre que de la reconnaissance. On est très fiers du travail que vous faites sur le terrain, Daniel. Je vous remercie et à très bientôt.
Le Code Noir de mars 1685. Édit du roi sur les esclaves des îles de l'Amérique. Article 16. Défendons aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou autrement. Soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés. À peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys. Et en cas de fréquente récidive et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort. Ce que nous laissons à l'arbitrage des juges.
Voilà un court extrait du Code noir, quand même, qui est la référence, même si le temps passe, cette histoire d'esclavage est qui matérialisée, mise en forme et en preuve par ce Code noir, ne manque pas évidemment de hanter toujours, qu'on le veuille ou non, les esprits et les négociations, même toujours aujourd'hui. Négociations qui ont l'air d'être d'aller dans le bon sens, dit-on, même si le MEDEF local s'est retiré des négociations, mais le MEDEF national appelle le MEDEF Guadeloupe à revenir à la table des négociations. C'est agité, c'est conflictuel, mais il semble bien qu'on soit en bonne voie pour une issue à ce long conflit qui hante pas seulement d'ailleurs la Guadeloupe, mais la Martinique, et sans doute dans les jours qui viennent, la Réunion. Quant à ce qui se passe en Guyane, j'ai moins d'informations, je l'avoue, mais on reste à l'affût de toute cette histoire, parce qu'on a bien compris, on a essayé de le dire tous ces jours derniers, l'histoire ne se limite pas à la revendication sur les salaires, même si c'est très important, et à toute une série de revendications portées par les 49 associations et partis présents dans le LKP, c'est beaucoup d'autres choses qui sont en cause et qui sont ébranlées et qui sont les enjeux profonds de ce conflit. Évidemment que l'essentiel peut se résumer à la dignité, une dignité recouvrée par les Guadeloupéen. Et c'est pas facile quand on entend ce qu'on vient d'entendre, justement, ce Code noir. C'est très, 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 très long de relever la tête et de décourber les chinés. Et c'est ça qui se passe quand même, essentiellement, en Guadeloupe. Vous avez remarqué que nous sommes revenus et que nous voilà ensemble jusqu'à 16 heures. On va rencontrer aujourd'hui Patrice Tacita, qui est une des figures de la scène guadeloupéenne sur le plan, lui, de la culture, à travers ce mouvement qui s'appelle Aquillo et qui est lié au mouvement politique, syndical et associatif. Et puis beaucoup de musique aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour tout le monde, bonjour Daniel. Un message pour signaler le deuxième rendez-vous du repère de Saint-Péret en Ardèche, juste à côté de Valence, donc lundi 2 mars à partir de 20h. Hervé nous accueille à l'hôtel Badet à Saint-Péret pour le deuxième rendez-vous du repère de Saint-Péret. Voilà, je vous attends nombreux à lundi à partir de 20h. C'était Cyril d'Ardèche, à bientôt.
Bonjour, c'est Marie-Paul de Villejuif. Faudrait peut-être arrêter de demander la baisse des prix dans les supermarchés et autres magasins. Si les prix baissent, les actionnaires ne vont pas baisser leur marge de bénéfice. Les pertes seront répercutées sur les fournisseurs, les salariés de Carrefour et autres grandes surfaces, à qui on va exiger toujours plus de rentabilité. Je vais vous donner un exemple. J'achète un appareil photo à Carrefour, 145 euros, et on me fait une réduction de 30 euros si j'ai la carte fidélité. J'ai demandé au vendeur quel était le montant de sa prime sur cet appareil. 30 centimes, et ses primes baissent de plus en plus. Il faut donc qu'il vende 100 appareils photo pour recevoir le cadeau que Carrefour m'a fait. Ce qu'il faut exiger, c'est l'augmentation des salaires, des créations d'emplois et l'abolition des boursicoteurs. Au revoir.
Bonjour, c'est Romain Audard qui vous rappelle le nouveau repère de là-bas si j'y suis, dans le secteur de Villemur-Montauban-Gaillac. Ça se passe à Thoriac, dans le Tarn, au bar Le Flibustier. Notre premier rendez-vous a lieu vendredi 6 mars à 20h30. Il en sera ici, enfin nous l'espérons, tous les premiers vendredis du mois. À bientôt. Merci.
Oui, salut Daniel, salut tous les AMG, c'est toujours Hervé de Gironde. Et ben, mea culpa, c'est pas le François Pérol qui a été condamné dans les affaires de l'OPAC à la belle époque chiracienne. mais je confirme bien par contre qu'il était présent à la liste des participants au Bilderberg 2008, je crois, en compagnie de Christine Ockrent, de Nicolas Bavrez, d'Henri de Castries, de Bertrand Collomb, Jean-Pierre Jouyet, bien sûr, etc., etc. Bon, bah, que le François Pérol ne m'envoie pas trop, c'était un homonyme. Allez, ciao, Yva, et portez-vous bien.
Bonjour à tous, je suis Hélène de l'île de la Réunion. Je vous précise que la prochaine réunion du Café Repère du bar de Lillo, 67 rue Sarda-Garriga à Saint-Louis, aura lieu le 3 mars à 20h, avec la porte-parole du mouvement universitaire de Lille et bien sûr la préparation de la grève générale qui est prévue le 5 mars. Je vous remercie, merci Daniel et à ton équipe de nous encourager.
C'est absurde qu'un jeune, quand tu vas demander du travail, il a tous ses diplômes. On ne le juge pas, non pour ses compétences, mais pour sa personnalité. Faut arrêter ça, monsieur. Faut arrêter ça, faut qu'on arrête ça. Faut que cela cesse. Quand un jeune demande du travail, il a tous ses diplômes, donnez-lui du travail. Ne le qualifiez pas, non pas sous sa personnalité. Faut qu'on arrête ça. L'esclavage est fini.
Quel que soit ce qui se passera, on ne pourra pas faire que ce peuple se transforme en une rangée d'appareils digestifs. On a voulu nous transformer en appareil digestif, consommer ce qui vient directement de France et ensuite passer à la déjection. Alors le non manifeste aujourd'hui notre liberté. Nous disons non à ce que fait l'État colonial français en Guadeloupe.
Et nous disons à l'opinion française internationale que malgré les mamelots, malgré la police, malgré la mort de notre camarade Japineau, rien ne nous fera reculer.
Un drôle d'accord, un peu bancal, non exhaustif.
France Info.
Voilà ce que les syndicats ont fini par arracher.
27 février 2009.
Il y a bien une prime de 200 euros pour les salariés les moins bien lotis, mais pas tous. Seulement ceux employés par les organisations patronales signataires de l'accord.
Soit cinq semaines de conflit social en Guadeloupe, et peut-être une porte de sortie, le LKP.
Salut, c'est là-bas si j'y suis, Daniel Mermet, Antoine Chao, Guadeloupe, contre la profitation.
Flight number 2, arriving from...
Alors là, excusez-moi, on vient de vous distribuer un tract, combat ouvrier, parole à travailler, c'est ça?
Combat ouvrier, parole à travailler. Je vous traduis pour vous. Le combat ouvrier, la parole des travailleurs.
Parole à travailler.
Oui, parole à travailler.
Exaspération des jeunes sans travail, produit d'une société injuste et sans perspective. Continuons la lutte avec LKP jusqu'à satisfaction.
Tout à fait, c'est bien ça. Il faut apprendre à parler de créole. Hein.
Ouais.
Vous devriez apprendre à parler de créole. Hein. Parce que les gens ont tendance à dire que comme quoi c'est racial. Qu'on n'aime pas les blancs. Rien du tout, parce qu'il y a des blancs qui se sont greffés dans le mouvement. Parce que nous sommes un peuple plus ethnique. Il y a des Indiens, il y a des Noirs, il y a des Blancs. Il y a des Chabins, il y a des Béquets aussi. Bien vu qu'ils sont de l'autre côté de la plaque, hein, mais ça n'a rien à voir avec le racisme. Je ne suis pas membre de LKP, mais je suis d'abord un Guadeloupéen, mais je suis, dans le mouvement LKP. Et c'est normal en tant que Guadeloupéen que je sois là. Et pas chez moi. Parce que, comme vous le savez sans doute, hein, c'est un pays qui est un marché captif. Et qui c'est qui contrôle l'économie de la Guadeloupe? Ce sont les Béquets. Et point du tout, qui sont les Béquets? Les Béquets sont descendants de l'esclavagiste. Et jusqu'à maintenant, ils vivent une communauté très fermée. Et ils contrôlent toute l'économie guadeloupéenne. C'est ça le problème. Donc, beaucoup de gens ont tendance à me déplacer le problème de race. C'est pas une question de race, c'est que de capitalisme. Ancien défendant de colons qui contrôle toute l'économie guadeloupéenne avec la complicité de l'État français. C'est ça le drame. L'État français n'a pas mis le contrôle au niveau des prix, au niveau de toute l'économie guadeloupéenne. Et ça cause un problème grave en Guadeloupe. De l'association de désordre.
Vous-même, vous êtes en grève depuis un mois?
Ça fait à peine 15 jours à peu près.
Et quel est votre métier?
Je suis technicien.
Et vous pensez que même si le gouvernement cède et accorde les 200 euros d'augmentation, le mouvement doit s'arrêter ou il doit continuer à aller au-delà?
Non, de toute manière, c'était un préalable. Le mouvement peut-être va s'arrêter, mais il y aura encore d'autres choses à traiter à court et à moyen terme. Mais il y a des choses qu'il faut traiter immédiatement. Les positions de première nécessité, les bas salaires qu'on sort, il faut créer ça tout de suite. Le reste viendra au fil de l'eau.
Et jusqu'où alors, à moyen terme ou à long terme?
Bon,
l'objectif?
Moi, je pense qu'il faut changer de statut, il faut passer d'un système institutionnel. Donc, ça me garde du temps. La Guadeloupe ne peut pas rester un département français. On est des Caraïbes avant tout. Donc, on doit quand même naviguer dans notre propre surface géographique. Donc, ça pose problème, ça, tout ça. Donc, on est amené à sortir dans le statut de département.
Et une autonomie sera bienvenue, d'après vous?
Je pense qu'il faut aller à cette voie-là. On est obligé. Et on a des partenaires caribéens avec qui on ne peut pas commercer, on ne peut pas échanger. Donc, ça n'est pas resté comme ça. Il faut un pouvoir local. Ça, c'est clair. La preuve, j'ai pu venir, il n'y a pas eu de problème. Et pourtant, c'est français-français. Et des Français posent la question, est-ce que véritablement, nous sommes des Français? Parce qu'on n'est pas traités sur la même pied de qualité. Hein, donc, la question d'identité se pose aussi. Parce que nous, on connaît l'histoire de France, mais est-ce que les Français de France connaissent notre histoire? Je n'ai pas l'impression.
Ils s'aiment beaucoup les uns les autres et se secourent fort volontiers dans leurs besoins. Il arrive souvent que si un d'eux fait une faute, ils viennent tous encore demander sa grâce ou s'offrir à recevoir pour lui une partie du châtiment qu'il a mérité. Il se passe quelquefois de manger pour avoir de quoi régaler ou soulager ceux de leur pays qui les viennent visiter et qu'ils savent être en nécessité. Rien n'est plus propre à les retenir et les empêcher de s'échapper que de faire en sorte qu'ils aient quelque chose dont ils puissent tirer du profit, comme des volailles, des cochons, un jardin à tabac, à coton, des herbages ou autre chose semblable. Voilà, je lis quelques lignes du voyage aux îles du bon père là-bas, afin peut-être dans l'espoir que les conseillers de notre président de la République lui mettront ces quelques lignes dans son dossier lorsqu'il viendra bientôt, au mois d'avril, a-t-il promis, en Guadeloupe, visiter nos amis français de Guadeloupe. Français entièrement à part ou à part entière, c'est une vieille question. Mais effectivement, ce militant rencontré par Antoine Chao se demande si nous autres hexagonaux connaissons l'histoire de ces îles. Eh bien, il faut bien reconnaître, pas tant que ça. Et nous-mêmes qui sommes si malins là-bas, si j'y suis, on en a beaucoup appris et on vous en fera apprendre encore au cours de la semaine prochaine, notamment sur 1967, cette tuerie, cette boucherie qui eut lieu à Pointe-à-Pitre en 1967 et qui est assez inconnue, même si ces événements récents et dans lesquels nous sommes encore, puisque l'issue n'est pas encore totale et très très nette, a permis de d'en savoir un peu plus à travers les reportages des uns et des autres. Aujourd'hui, donc, on va être avec Patrice Tacita, qui est une des figures de la scène intellectuelle et engagée de Guadeloupe, et qui va attirer notre attention sur ce mouvement qui s'appelle Aquio, qui est un mouvement culturel qui accompagne le mouvement politique, social et identitaire de la Guadeloupe. Voilà, on est ensemble jusqu'à 16h. C'est là-bas, si j'y suis, contre la profitation. L'intensité de la vie a été concentrée devant ce palais de, est toujours concentrée devant ce palais de la mutualité à Pointe-à-Pitre, un tout petit espace, une place entre l'église et ce palais et ce bâtiment qui a été réinvesti. Pour l'occasion et le mot mutualité prend toute sa signification. C'est par ces jours et ces nuits que vivent actuellement les Guadeloupéens. C'est une grande aventure que qu'ils sont en train de vivre et une grande aventure qui, je le dis et l'ai répété, met en cause toute leur histoire. Et pour évoquer au contraire cette histoire, voilà Patrice Tacita, qui est une des figures, je l'ai dit, de ce mouvement et qui est avocat de son État et que nous rencontrons dans ce palais de la mutualité. C'est le studio de Radio LKP. Alors, c'est pas facile de commencer à travailler dans le studio de Radio LKP parce que ça rentre, ça sort, il y a des gens qui viennent chercher des gâteaux, il y en a qui... Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots?
Oui, Patrice Tacita, donc porte-parole du mouvement culturel Akio. C'est un mouvement qui existe depuis 31 ans sur fond de revendication identitaire et de réappropriation de tout ce qui constituait la culture guadeloupéenne qui avait été refoulée du fait de la colonisation, c'est-à-dire tout ce qui est revendication du créole, revendication des tambours, revendication de toute la poésie qu'il y a dans ce qui a constitué la culture, qui a été dominée du fait de la colonisation. C'est un peu ça Akio. Et c'est un mouvement qui s'est créé avec des musiciens de Groka, tambours, des indépendantistes, des peintres, des ouvriers d'Okéa. C'est tout ça qui a créé Akio.
Qu'est-ce que ça veut dire identitaire aujourd'hui?
Identitaire aujourd'hui, c'est la réappropriation. Enfin, on pourrait définir ça négativement. Négativement, c'est tout ce qui a été occulté du fait du colonialisme, c'est-à-dire la langue, la littérature. Non, la littérature, c'est pas que ce qui est écrit, c'est tout ce qu'il y a de poésie, tout ce qu'il y a de dramaturgie dans le gros cas. Et c'est également tous les modes de vie qui étaient essentiellement ruraux et qui ont été ramenés dans la ville à partir des années 60, qui constituent la Guadeloupéenne par rapport à ce qui a été imposé, c'est-à-dire la langue française, le mode de vie français, le rythme de vie français, tout ce qui était imposé pour être institué dans la société comme étant citoyen. Pour aller vite, on pourrait dire que c'est un peu tout ce qui a constitué l'âme de l'indigène par rapport à ce qu'imposait la culture coloniale.
Exploitation, ça va pas bon messier.
Oui, oui, oui.
Exploitation, ça va pas bon mesdames.
Oui, oui, oui.
Exploitation, son butin qui raide. Tout pas doit être.
Dis-nous ce que c'est que le gros cas.
Le gros cas, c'est la première forme artistique, je dis, artistiquement achevée, c'est-à-dire à base de chant et de danse, qui a été inventée par les esclaves africains qui étaient déportés ici. Parce que l'esclave, en tant qu'être vivant, il pouvait vivre biologiquement avec la nourriture que lui donnait son maître. Mais pour qu'il reste un homme, c'est-à-dire pour qu'il y ait une nourriture spirituelle qui le distingue des autres animaux, il lui fallait inventer un art, c'est-à-dire une nourriture spirituelle qui soit immatérielle. Et ça a été le gros cas. Le roka, qui est une musique...
C'est un tambour.
Non, justement, lorsque le père là-bas, qui a vécu ici au XVIIe siècle, lorsqu'il définit le roka, c'est déjà un art assez achevé. Il définit deux personnes qui jouent un rythme assez constant et un troisième qui improvise. Le roka est déjà structuré avec ces trois éléments et en sept rythmes différents. Par contre, le roka, c'est pas seulement ça. C'est effectivement cette forme-là de percussion. C'est un chant, c'est une danse, ces manières de vivre, parce qu'il y a plusieurs champs qui correspondent à plusieurs activités. Il y a les labos, il y a, c'est aussi le champ d'éveil mensuel qui se décline sans instrument. Et récemment avec
un... Mais par rapport aux colons, c'est une émancipation.
C'est une émancipation, puisque l'article 16 du Code noir interdit le roka en disant, interdisons les rassemblements de nègres au prétexte de chaînes de danse dans tous les grands chemins. Et c'est une prohibition du roka.
Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys. Et en cas de fréquente récidive et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants et de les arrêter et de les conduire en prison, bien qu'ils ne soient officiers et qu'il n'y ait contre eux encore aucun décret. Article 16, Code noir, mars 1685.
Autrement dit, on ne peut pas comprendre l'âme guadeloupéenne sans le roka. Je ne dis pas que c'est la seule musique qui est en Guadeloupe, mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est la mère de toutes les musiques. Et par exemple, dans la grève, dans le mouvement social, le roka est en permanence. Et en 1995, lorsque le maire Bangou a voulu arrêter le roka, des artistes et peintres, et notamment des percussionnistes, ils ont défié cette arrêté-là, qui est restée lettre morte, puisque c'est comme une espèce de principe général culturel, souverain, qui va au-delà de l'imposition législative et réglementaire française. Donc, ça vous montre justement qu'à part la souveraineté politique, il y a une souveraineté culturelle ici qui est partagée par tout le monde, que ce soit celui qui vote oui ou non au référendum, que ce soit celui qui vote UMP, PCG. Les gens peuvent s'affronter politiquement et ne pas être d'accord. Et c'est triper sous indépendance ou pas indépendance. Vous n'empêcherez à personne de chanter une veillée mensuelle, en tout cas, ni de chanter des chants qui peuvent être révolutionnaires. Le Guadeloupéen reconnaît son identité culturelle à travers le tambour.
A crier joli, mais joli, pas qu'à répondre. Attends-toi, aïe Marie en blessé. Attends-toi, Marie en blessé. Préparez, mon terrain de sommier. Préparez, mon terrain de sommier. Attrapez comme moi, oui. Tanto Marie en blessé, préparez mon terrain sommier, préparez mon terrain sommier, moi trempé comme moi, oui. Ni trois jours moi ça manger, va ta moi encore j'en oui. Ni trois jours moi ça manger, va ta moi encore j'en oui. A crier gossa, gossa va ta répondre. A crier joli, mais joli, va ta répondre. A crier gossa. Bagosa baka répondre. A crier joli, joli baka répondre. A tantôt, Marie en blessé. Préparé, on te rit sommier. A tantôt, Marie en blessé. Préparé, on te rit sommier. Préparé, on te rit sommier. On t'en fait comme oui. On t'en fait comme oui.
Alors, tu dis indépendantiste. Ça veut dire quoi, indépendantiste, aujourd'hui, en Guadeloupe? Quelle est l'aspiration? Qu'est-ce qu'on entend par indépendance?
Indépendance, c'est la grande affaire, le mot est... revient partout, et bien évidemment que les opposants à ce mouvement de revendication contre les inégalités sociales énormes, flagrantes, et inégalités aussi de revenus énormes et flagrantes dans ce pays, on dit, ah mais attendez, derrière ça, ils veulent l'indépendance. Alors, et bien évidemment, c'est une façon de discréditer le mouvement, et ceux qui s'opposent n'ont pas manqué d'agiter cette menace et cette idée. Rappelez-vous que nous avons posé la question à Elie de Mota, le leader du LKP, le porte-parole du LKP, et écoutez à nouveau sa réponse. Allons vers les critiques maintenant. On nous dit, oui, mais derrière ça, ils veulent l'indépendance. De Mota, c'est un indépendantiste, et ce qu'il veut, c'est l'indépendance. Et ils sont déguisés, ils sont masqués. C'est des indépendantistes masqués. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez?
Ben, je dis, si quelqu'un croit pouvoir aller à l'indépendance avec la plateforme de revendication du LKP, là, qu'il y aille, mais sans moi. Je crois que aujourd'hui, dans le LKP, vous avez des communistes, vous avez des trotskistes, vous avez des gens qui sont prêts, proches du PS, vous avez des gens qui sont à l'UMP. D'accord?
À l'UMP même.
Vous avez des gens qui sont chez les Verts et vous avez des gens qui sont de tous bords politiques confondus, et je ne pense pas que tous ces gens-là aient la même vision de l'avenir de la Guadeloupe. Première chose. Deuxième chose, c'est les Guadeloupéens, le peuple guadeloupéen qui choisira en âme et conscience ce qu'il a envie de faire de son pays et de son avenir.
Oui, alors mais vos convictions à vous en ce qui concerne l'autonomie, l'indépendance de ce pays.
Je crois que tout être sur terre défend le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et je crois que un jour ou l'autre, la Guadeloupe fera partie des nations de ce monde, et comme tout peuple, nous aspirons au droit du peuple guadeloupéen à disposer de lui-même. Mais la question n'est pas posée dans le cadre du LKP du tout. Je crois que quand on regarde la plateforme de revendication, on voit qu'elle est qu'il y a trois niveaux, hein, enfin deux ou trois niveaux. Un niveau sur ce qu'on appelle l'immédiateté, les conditions de vie, le pouvoir d'achat, les salaires, et d'autres choses sur l'aménagement du territoire, sur l'éducation, la formation, sur la production agricole, des choses qui doivent nous faire changer de vie. Mais je crois que le combat politique pour l'émergence d'un État, pour l'indépendance de la Guadeloupe, on en est loin.
On en est loin, mais c'est quand même votre combat.
Au niveau du LKP, non.
Au niveau du LKP, mais au niveau de Elie de Mota, c'est son combat, c'est l'un de ses combats. C'est l'une de ses aspirations qui s'inscrit d'ailleurs dans toute l'histoire du pays. Enfin.
Non, de toute façon, je suis secrétaire général de l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe. Et dès son congrès de 1975, l'UGTG s'est positionné pour l'indépendance nationale de la Guadeloupe. Mais ce n'est pas ce combat-là que nous menons au LKP. Je crois autrement, si c'était ce combat-là qui était mené au LKP, on ne serait pas 49 organisations avec des visions différentes à être ensemble, bien au contraire.
Oui, c'est ça, bien au contraire, puisque la majorité des Guadeloupéens ne se voient pas dans un pays indépendant.
Mais pas pour l'heure, ça c'est clair. Si vous faites un sondage, je ne pense pas que l'indépendance recueillera plus de 5 ou 6%. Je ne pense pas.
Voilà, je pense que les choses sont claires. Alors, il y a eu ce sondage soi-disant gênant publié par le quotidien Le Figaro, affirmant que 51% des Français étaient favorables à l'indépendance de la Guadeloupe. En précisant qu'il y a une marge d'erreur de 2 à 3%, ce qui évidemment change les choses dans un sens ou dans un autre, mais dans le même sondage, on indiquait que les mêmes sondés étaient tout à fait considérés que ces départements d'outre-mer étaient un plus pour la France en général. Donc on voit bien qu'il y a une contradiction et qu'il se pourrait bien que cette idée d'une indépendance s'inscrivent tout à fait dans ce que nous dit de Mota aujourd'hui. C'est-à-dire, eh ben, effectivement, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et qu'un jour ou l'autre, il est dans le sens de l'histoire d'assurer son autonomie, sinon son indépendance. Mais c'est pas du tout dans les aspirations actuelles des gens des Guadeloupéens, ni pas plus d'ailleurs que des Martiniquais, et des Guyanais, et des Réunionnais, et le référendum de 2003 était allé dans ce sens, en Outre-mer, la Guadeloupe à 73% et la Martinique également en forte majorité avait rejeté le projet de réforme institutionnelle qui préconisait la création d'une collectivité administrée par une assemblée unique se substituant aux départements et régions actuelles. Alors évidemment, c'était pas directement l'indépendance dont il était question, mais on voit bien qu'il y a une volonté de rester en France, tout simplement, français qu'ils sont depuis fort longtemps, ces gens-là, sauf que ils souhaiteraient plutôt être des Français à part entière que des Français entièrement à part, pour reprendre la formule fameuse. Nous, on continue avec Patrice Tacita, porte-parole du mouvement Akio.
L'indépendance, je dirais que c'est la souveraineté nationale. C'est-à-dire, c'est la possibilité pour des gens de dire ou de ne pas dire. C'est le droit qui peut être donné aux gens de se définir comme étant non pas une partie de notre État, mais comme étant une nation qui doit avoir la possibilité de se constituer en État. Et c'est surtout aujourd'hui, c'est la possibilité d'avoir accès à l'autodétermination. Ça peut être de dire que non, ça ne nous intéresse pas, mais ça peut se décliner un État fédéral, État rattaché à un plus grand ensemble caribéen, État associé à la France, etc. Mais c'est là le droit que doit avoir toute société à un moment donné qui a les éléments de la nation de s'organiser.
De disposer de soi-même.
Disposer d'elle-même,
oui. Et si on faisait un référendum actuellement en Guadeloupe sur un projet d'indépendance, quels seraient les résultats?
Je pense pas qu'il faut poser la question comme ça. Parce que
c'est pas la poser comme non, ça, parce que ce serait une majorité
non,
qui serait contre.
Non, pas du tout. Parce que c'est très ambivalent, parce que la même majorité qui est contre, elle pourrait, dans la seconde d'après, être pour tous les attributs de l'indépendance. C'est-à-dire, si vous dites aux gens aujourd'hui, quand on lit la plateforme de revendication de LKP par exemple, qui n'est pas une plateforme indépendantiste, c'est une plateforme qui comporte des revendications matérielles. Tous les Guadeloupéens sont d'accord avec la plateforme, ce qui explique le succès de la Cour générale. Mais le problème que pose le LKP, c'est que, je l'ai dit, il y a des revendications matérielles, salariales, minima sociaux, etc. Mais il y a également des revendications immatérielles. C'est pour ça que c'est pas une grève. C'est pas un mouvement social. Autrement dit, les éléments qui constituent le concept de souveraineté sont largement partagés par l'ensemble du peuple guadeloupéen. Et aujourd'hui, c'est aux Guadeloupéens de faire le ménage dans sa tête pour bien comprendre que l'indépendance ou la souveraineté nationale, c'est une question de faire en sorte que, est-ce qu'à un moment donné, les gens sont d'accord pour mieux vivre, d'être en situation d'assumer le propre affaire.
Mais cette indépendance-là, est-ce que c'est pas ce que souhaite la France? Est-ce que le gouvernement français ne souhaite pas justement se débarrasser de la Guadeloupe? Est-ce qu'il serait pas ravi finalement de se débarrasser de cette histoire?
Et c'est sûr qu'économiquement, la France traverse une passe difficile.
Ah,
puisque bon, il n'y a pas d'argent. Il n'y a plus d'argent, surtout lorsqu'on s'augmente de près de 100% en tant que président et qu'il ne reste plus grand-chose et qu'on fait des cadeaux fiscaux, c'est sûr que c'est difficile. Bon. Maintenant, je crois que aujourd'hui, peut-être qu'elle serait ravie de se débarrasser de la Guadeloupe en termes économiques, mais je ne crois pas qu'en termes géopolitiques, ça l'arrangerait. Mais j'irais même plus loin, je serais pervers. Je ne suis même pas sûr que ça l'arrange économiquement, parce que je ne suis pas sûr qu'on rapporte moins ça à la France que ce que veut bien faire croire le discours officiel. Parce que il y a beaucoup de produits manufacturés qui entrent ici, qui sont des produits qui ne sont pas fabriqués ici, et qui rapportent beaucoup, peut-être pas à la France en tant que telle, mais qui rapportent beaucoup aux entreprises françaises. Deuxièmement, jusqu'aux années 89-90, fiscalement, la Guadeloupe rapportait beaucoup plus à la France que ce qu'elle recevait. On a voulu faire croire qu'avec 40% et qu'avec les transferts de sociaux, la Guadeloupe était un gros financier. Mais en fait, c'est faux. Les économistes, ici en Guadeloupe, ont établi qu'on était un très très bon pigeon pour la France et que nous étions un très très bon client. Il ne paye pas d'argent aux Antilles, la France. Et je ne vous parlerai pas, bon, c'est pas les Antilles, c'est la Guyane, mais par exemple, quand vous voyez l'intérêt géopolitique de la France d'avoir une rampe de lancement en Guyane, bon, ça coule de source. Donc je crois qu'aujourd'hui, justement, le problème pour le Guadeloupéen, c'est de mettre en accord les aspirations profondes et le cadre politique dans lequel il évolue, parce que s'il ne le fait pas, et là je suis d'accord avec vous, tôt ou tard, la France se fera à sa place. Par exemple, au niveau d'Aquillo, c'est un mouvement très populaire. Quand on défile dans les rues, on a facilement 4 à 5 000 personnes, ça peut arriver très facilement. Bon, mais dans notre charte, à Aquillo, le dernier principe, c'est tu libéreras ton pays du joug colonial. Et lorsque les gens adhèrent à Aquillo, on demande d'adhérer à la charte, il n'y a aucun problème. Mais par contre, on n'est pas sur des discours marxistes ni autres qui sont comme des espèces de catégories, on est sur des choses concrètes, c'est-à-dire en indiquant aux gens que en étant antiste dans sa culture, on peut vivre. En pratiquant un art culinaire qui est celui de son pays, on peut vivre en autonomie alimentaire. En pratiquant des formes de solidarité associative, on peut effectivement faire de la prévention de la délinquance. On est surtout sur des choses concrètes, et c'est à partir de ce travail concret que les gens adhèrent.
veines, nec pitation, nec à la nation.
Abolition.
Ah, pour la musique, ça, on a l'embarras du choix. Ça, c'est beaucoup. Il faut reconnaître qu'ils sont très, très forts pour tout ce qui est musical. Et depuis longtemps, c'est un apport formidable à la culture du monde. Pas seulement, évidemment, des Antilles. Ça, c'est vraiment un apport à... Voilà, à notre histoire, à notre sensibilité. Et c'est aussi la contribution d'Akio. Akio, bien sûr, c'est la culture, c'est le mouvement culturel avec une signification politique au sens de, bah justement, cette autonomie, cette identité dont nous parlons et qu'évoque pour nous Patrice Tacita, je le rappelle, avocat et porte-parole de ce mouvement Akio.
Qui inquiète beaucoup le gouvernement français en ce moment, ce qu'on craint beaucoup, c'est que on soit ici dans un laboratoire. Votre mouvement social, culturel, politique actuellement, le gouvernement français a très peur que ça serve d'exemple au reste du pays.
Je suis facilement convaincu que la majorité des leaders du RKP n'ont pas peur de ce que peut penser le gouvernement français. Ce qui est déjà une prouesse, puisque nous avons été élevés dans la peur du maître blanc, dans la peur du haut fonctionnaire, dans la peur du préfet, dans la peur du ministre. J'ai participé aux négociations de 24 heures qu'il y a eu dans la nuit du 7 au 8 février et qui avait donné lieu au préaccord qui a été renié par la suite par M. Gigot. J'ai vu des gens dire un préfet de se taire. J'ai vu des gens dire un ministre mais qui prétextait partir soit pour ruiner, soit pour se reposer, dire vous allez rester là M. Gigot jusqu'à ce qu'on ait fini. Et ça c'était impensable avant. Mais ça c'est possible parce qu'il y a toute une génération qui a pris conscience que tout simplement elle n'était ni plus ni moins que ceux qui venaient en tant que fonctionnaires que politiques. Et que ce sont des hommes comme tout le monde. Et je pense que la difficulté justement du gouvernement français aujourd'hui, c'est justement que le colon fait une erreur fondamentale. C'est toujours de penser qu'il est dans un rapport asymétrique avec le colonisé. Il pense qu'il est plus fort, qu'il est plus beau, plus intelligent, et qu'il a l'exclusif de la culture. Et l'exemple le plus probant, c'est la déclaration de Gigot. Quand Gigot dit, c'est vrai que chez nous, c'est la pensée cartésienne, et ici, elle est un peu folklorique. Mais ça, c'est du racisme.
Il a dit ça?
Mais il a dit ça. J'ai pas la phrase exacte, mais il a dit ça. Hein. Il peut m'attaquer en diffamation, il a dit ça. J'ai le journal, je peux vous retrouver le journal. Il a dit ça. Mais tous les gens qui sont ici, ils ont une science qui leur est propre. Mais ça, l'État français ne peut pas le comprendre parce qu'il n'a pas les outils, parce qu'il n'a jamais pris le temps d'approcher ce pays-là comme étant un pays, comme étant une société, avec ses rituels, ses actions, tout ça, il n'a pas pris le temps. Pour lui, c'est des moins que rien. Donc c'est là le problème. Donc il y a un logiciel auquel il n'a pas accès. Et ce logiciel-là, nous savons aujourd'hui, tous autant que nous sommes, qu'il n'est aucunement question qu'on puisse lui fournir à l'État français le code d'accès, puisque c'est ce logiciel-là qui nous préserve. Dans beaucoup de secteurs de la société, c'est l'ancien régime. On n'est pas encore passé, c'est avant 1789. C'est-à-dire que des gens étaient libérés en 1848, sans indemnité, alors qu'ils étaient victimes. On a indemnisé les esclavagistes. Et on vous a dit trois choses. Les premiers, le gouverneur Laril, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, surtout, restez au travail, restez attachés à vos maîtres. Tout de suite, on va développer une législation qui est contre le vagabondage, donc comme vous n'avez pas de choix, vous restez attachés à vos maîtres. Le maître, il a une boutique sous l'habitation. Donc tout ce qu'ils vous donnent comme argent, ça passe en crédit dans la boutique. Et surtout, on va vous dire que vous devez une grande déférence à la générosité des anciens maîtres qui ont bien voulu vous libérer d'esclavage.
De vous donner la liberté.
Depuis 1848, on n'aurait pas dû être là à parler toujours d'esclavage, de blanc de mémé. Qu'est-ce qui se passe? C'est que rien n'a changé en réalité. Il y a seulement une façade. Mais fondamentalement, dans les rapports sociaux ici, rien n'a changé. Et c'est pour ça justement qu'une des grosses revendications de LKP, c'est de dire que nous sommes pour une transformation des rapports sociaux. Que les rapports soient pas des rapports biaisés, des rapports de classe ou de caste, mais qu'ils soient des rapports harmonieux. Puisqu'il faudra bien qu'un jour, un Guadeloupéen soit, je ne sais pas, soit directeur de banque ici, soit responsable de concession automobile, soit... Si mon enfant a fait HEC, il ne pourra jamais diriger un supermarché ici. Pas que je me dis supermarché, hein. Mais si mon enfant fait HEC, il ne pourra jamais dire que je peux manger. Il ne sera jamais procureur général, président du tribunal de grande instance. Il ne sera jamais directeur du SRPJ. Il ne sera jamais directeur des services fiscaux. Jamais. Par contre, il pourra gérer la CAF, comme c'est la misère, il va gérer la CAF. Il va gérer la NPE. Parce que la NPE, bon, c'est la pénurie. Mais il n'aura jamais des postes qui constituent des postes de prestige.
Le prix des esclaves en Afrique se règle selon la quantité que les princes ou les particuliers en ont à vendre. Le nombre des acheteurs et les besoins des vendeurs, on les paye en barres de fer, fusils, poudre, balles, toile, papier, étoffes légères et autres marchandises, et surtout en bouges, qui sont des coquilles que l'on apporte des îles Maldives, qui servent de monnaie courante dans toute la côte. La traite des esclaves n'est pas le seul commerce qu'on fait sur les côtes d'Afrique. On y négocie encore beaucoup d'or, des dents d'éléphant qu'on appelle des morphies, de la cire, des cuirs, des gommes, de la maniguette, qui est une espèce de poivre. On en apporte aussi des perroquets, des singes, des étoffes, ou pagnes d'herbe et autres choses. Lorsqu'ils sont achetés et conduit à l'habitation, il faut éviter sur toute chose l'insatiable avarice et l'horrible dureté de certains habitants qui les font travailler tout en arrivant sans presque leur donner le temps de prendre haleine. C'est n'avoir point du tout de charité ni de discrétion et n'entendre rien en ses propres intérêts que d'en agir en cette manière. Ces pauvres gens sont fatigués d'un long voyage, pendant lequel ils ont toujours été attachés, deux à deux, avec une cheville de fer. Ils sont exténués de la faim et de la soif, qui ne manquent jamais de les faire souffrir beaucoup pendant la traversée, sans compter le déplaisir où ils sont d'être éloignés de leur pays, sans espérance d'y jamais retourner. N'est-ce pas le moyen d'augmenter leurs maux et leurs chagrins que de les pousser au travail sans leur donner quelques jours de repos et de bonne nourriture? Il faut, après qu'ils sont arrivés à la maison, qu'ils ont mangé et qu'ils se sont reposés quelques heures, les faire baigner à la mer, leur faire raser la tête et leur faire frotter tout le corps avec de l'huile de palme. Cela dénoue les jointures, les rend plus souples et empêche les effets ou les suites du scorbut, s'ils avaient quelques dispositions à en être attaqués. Il faut pendant 2 ou 3 jours humecter avec de l'huile d'olive la farine ou la cassave qu'on leur donne, les faire manger peu et souvent et les faire baigner soir et matin. Ce régime de vie les dispose à une petite saignée et à une purgation douce qu'on leur fait prendre. Ces bons traitements, joints aux habits qu'on leur donne et à quelques autres douceurs qu'on leur témoigne, les rend affectionnés et leur fait oublier leur pays. Elle est un malheureux où la servitude les réduit. Pour peu qu'on leur fasse du bien et qu'on le fasse de bonne grâce, ils aiment infiniment leur maître et ne reconnaissent aucun péril quand il s'agit de lui sauver la vie au dépens même de la leur.
Sauvez la Guadeloupe, sauvez la Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est un bon pays. Nous ne pouvons pas laisser tomber, mes amis.
Sauvez la Guadeloupe, sauvez la Guadeloupe.
Répondez, levez la voix, messieurs, pour attendre une belle musique en Guadeloupe.
Sauvez la Guadeloupe, sauvez la Guadeloupe.
Attends, bouillez, prenez cala avant moi pour attendre la présence là.
Sauvez la Guadeloupe.
Sauvez la Guadeloupe, la Guadeloupe s'est plongée.
Anibal, sauvez la Guadeloupe,
sauvez la Guadeloupe, sauvez la Guadeloupe.
Ah, la Guadeloupe, c'est mon pays, je ne vais pas laisser tomber mes amis.
Sauvez la Guadeloupe, sauvez la Guadeloupe.
Ah, la Guadeloupe, c'est une malheureuse. Pour nous vivre en Guadeloupe, mes amis.
Sauvez la Guadeloupe. Sauvez la Guadeloupe.
Ah, tout là où on fait passer. Côté les Guadeloupéens, ça va trouver la vie souvent. J'aime de manger l'autre en Guadeloupe.
Sauvez la Guadeloupe. Sauvez la Guadeloupe.
Ah, y'a un pauvre même aider là. Pour nous vivre autrement en Guadeloupe.
Sauvez la Guadeloupe. Sauvez la Guadeloupe.
La Guadeloupe, c'est mon pays, je sais de quand j'ai pas trouvé ça, mes amis.
Sauvez la Guadeloupe, sauvez la Guadeloupe.
Fini les étrangers, t'as laissé pays ailleurs. Yo qu'a fini en Guadeloupe, bon yo qui fait en Guadeloupe. Yo qui n'est pas bon en tête, yo qu'a n'est pas en situation en Guadeloupe.
Sauvez la Guadeloupe.
Merci à tous, merci à Patrice Lacita, à Gérard Tourtrol et à tous les amis de Pointe-à-Pitre et de la Guadeloupe. Nous vous signalons samedi 28 février, le collectif DOM appelle un rassemblement à 15h, place de la Nation à Paris, pour dénoncer, je cite, la situation d'exception dans laquelle vivent les départements ultramarins. C'était un reportage avec Antoine Chao. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. Et là aussi, on y attend vos commentaires à la technique. Jean-Philippe Jeanne et Yann Bouillot, Koy Nguyen et Raphaël Moutard de réaliser cette émission avec Charlotte Perry comme assistante et Agnès Lebocq qui s'occupe du répondeur, dont le numéro, mais vous le saviez, est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.